Ernest Renan, Lettre d'Italie. Première lettre, à sa mère. Montpellier, 23 octobre 1849. Me voilà déjà bien loin de vous, chère mère. Je n'ai point encore quitté la France, et je suis tenté de me croire en pays étranger, tant la nature, les mœurs, la langue même du Midi diffèrent de celle du Nord. Au lieu des froids, des brouillards et des pluies, qui sans doute ont déjà commencé leur cours parmi vous, nous avons ici des chaleurs du mois d'août, et à l'heure où je vous écris, 10 heures du soir, la joyeuse population de Montpellier se livre sous ma fenêtre au divertissement du soir. Rien ne peut vous donner une idée, chère mère, de cette éternelle jeunesse dont ces belles races ont le privilège. C'est une expansion, une facilité, une prestesse, un flux de paroles, une mobilité d'humeur, une intarissable gaieté qui produit sur notre grave taciturnité l'effet d'une perpétuelle comédie. Mais aussi, comment nourrir un instant de mélancolie sous ce ciel toujours bleu, au milieu de ces plaines d'oliviers toujours verts et en face de ce beau lac qu'on appelle la Méditerranée? Notre voyage jusqu'ici, chère mère, s'est accompli à souhait. Le chemin de fer nous a conduit de Paris à Néronde, au-delà de Bourges, en quelques heures. Puis la diligence nous a fait traverser le Bourbonnais par Moulins et la Palisse. Le centre de la France offre généralement un aspect monotone. De vastes plaines à perte de vue, des marécages sans culture ou aires de grands troupeaux, un pays baigné ou plutôt inondé par d'innombrables courants d'eau, tel est l'aspect depuis Orléans jusqu'au moment où l'on aperçoit les premiers sommets des Cévennes. Mais alors, l'aspect change complètement. Le pays se plisse en collines de formes variées, l'horizon devient dentelé et paraît de tous les côtés chargé d'énormes masses de granit. Pendant près d'une journée, nous avons cheminé, ayant à notre droite cette immense chaîne de montagnes qui traverse la France du nord au sud. Mais c'est surtout de Roanne à Tarare que l'aspect devient imposant et pittoresque. La route serpente à une très grande hauteur sur le sommet de longues collines qui se font suite l'une à l'autre, au milieu d'un labyrinthe de petits mamelons tout couverts de la plus riche végétation, et au milieu de petites rivières qui, suivant les pentes du terrain, vont porter leurs eaux à la Loire ou à la Saône, à l'océan ou à la Méditerranée, aux terres du Nord ou à celles du Midi. Par là est la grande arête du continent européen qui détermine le cours des eaux et leur direction définitive. Nous sommes arrivés à Lyon à 10 heures du soir et avons passé 2 jours francs dans cette grande ville, si digne d'être vue même après Paris. La capitale ne saurait donner une idée de ce mouvement commercial, de ce va-et-vient perpétuel de bateaux à vapeur qui sillonnent à toute heure le Rhône et la Saône. Ces 2 beaux fleuves qui réunissent leurs eaux à Lyon même offrent une masse d'eau du plus imposant aspect et qui rappelle presque la mer, en même temps qu'il présente le plus étrange contraste. Le Rhône, emporté par un cours rapide, mugit contre les quais qui le bordent et les ponts qui le traversent, tandis que la Saône semble dormir dans son lit paisible. La ville de Lyon est surtout considérable par les immenses faubourgs qui l'avoisinent et qui forment autant de villes distinctes. Vaise, Fourvière, la Croix-Rousse, les Brotteaux, la Guillotière, Perrache. Pendant plusieurs lieues, on dirait une ville continue, capricieusement dispersée sur les bords de ces 2 grands fleuves. Le 20, à 5 heures du matin, nous nous sommes embarqués sur les bateaux à vapeur qui descendent le Rhône. Toute la journée, nous avons suivi les sinuosités de ces bords, qui sont bien les plus pittoresques qu'on puisse voir. Des 2 côtés, une chaîne de montagnes, les coudes de terrain les plus variés et les plus inattendus, des ruines de vieux châteaux sur toutes les collines, des villes et de nombreux villages semés sur le versant des coteaux, des ponts d'une grande hardiesse qui réunissent sans cesse les 2 bords. Nous avons ainsi salué la ville de Vienne, Valence, Tournon, Pont-Saint-Esprit, Orange, et dans le lointain, les montagnes du Dauphiné, les Alpes, le Mont-Blanc à notre gauche, les montagnes de l'Auvergne à notre droite. Ces grandes masses, la première fois qu'on les aperçoit, font une impression qui ne peut se décrire, et à laquelle notre Bretagne ne révèle rien d'analogue. Supposez ces rochers, dont nos rivages sont hérissés ayant des milliers de pieds d'élévation, et perdant leur sommet dans les nuages. Le 21, à la nuit tombante, nous abordions au quai de la gentille petite ville d'Avignon, avec ses jolis petits remparts à petits créneaux dentelés, ses petites tours, ses petits clochers brodés en pierre, qui lui donnent l'aspect d'une petite bonbonnière offerte en présent aux papes qui y ont si longtemps résidé. Tout y respire encore la longue domination pontificale. Le grand château féodal où il résidait domine la ville. Là, tout est historique, depuis la grande salle aux voûtes dorées où il recevait les souverains, jusqu'à l'admirable chapelle peinte à la manière italienne, jusqu'aux salles de torture de l'Inquisition, jusqu'à l'horrible tour encore teinte de sang à l'intérieur où eurent lieu les affreux massacres qui inaugurèrent en 1793 la Révolution à Avignon. La population d'Avignon est vraiment étrange. Ces gens ont le feu dans les veines. C'est la passion vivante et agissante. Ils semblent vivre sans cesse dans une demi-ivresse de gaieté et de colère qui donne place à des scènes de fureur auprès des plus gracieuses scènes d'une vie toute de plaisir. Redoutable levain que celui que ce soleil ardent fait fermenter dans ses têtes ardentes. Nous avons passé une matinée et une nuit à Avignon. Et hier, un chemin de fer nous a menés de cette ville à Montpellier, en passant par Tarascon, Beaucaire, Nîmes, Lunel. Aujourd'hui, j'ai passé dans la famille de Benjamin Moulec tous les moments que je n'ai pu donner à mes recherches, et demain je ferai de même. Il est impossible de trouver une amitié plus franche et une réception plus cordiale que celle que j'ai trouvée dans cet excellent homme. Il m'a chargé à maintes reprises de le rappeler, chère mère, à votre souvenir. Montpellier est une jolie ville, bien fraîche et bien gaie, située sur le penchant d'une colline non loin de la Méditerranée. Elle a la réputation d'être la ville la plus saine de France, ce qui attire beaucoup d'étrangers. Tout est jeune sous ce beau climat. Au lieu de cette teinte noirâtre et plombée que notre air corrosif donne à nos monuments, les plus vieux édifices de ce pays ont une belle couleur dorée et semblent à la lettre pénétrés par la lumière. Cet aspect de blancheur, ces rayons éblouissants que reflètent les murs et jusqu'au toit des maisons, feraient croire que cette ville est sortie hier de ses fondations et pourtant c'est une des plus anciennes de France. La campagne alentour est une vraie forêt d'oliviers entremêlée de maisons blanches. Mercredi matin, nous partons par le chemin de fer de Montpellier à Marseille en repassant par Nîmes où nous resterons quelques heures pour admirer les antiquités romaines de cette ville célèbre ainsi qu'à Arles et à Aix. Nous arriverons vers le soir à Marseille, d'où nous partirons pour Toulon. Le 25, jeudi prochain, nous nous embarquons pour Civitavecchia. Dimanche prochain, nous serons probablement à Rome. L'impression que me laissent tous ces voyages est fort agréable, chère mère. Quand on est jeune, on trouve partout une patrie et un foyer, et on aime à voir fuir, au bord de la route, la paisible chaumière où se réunit la famille. Le contraste de cette vie agitée est toujours nouvelle avec cette vie de repos, plaît et enchante. Plus tard vient l'âge où l'homme se concentre sur lui-même et cherche entre quatre murailles la vie et le bonheur. Heureux celui qui le trouve n'importe où et n'importe comment. Ah, chère mère, que j'aime à penser à vous au milieu de cette vie nomade, à notre joyeuse chambrette, à cette paisible ville de Saint-Malo, à ses raisonnables habitants, à nos chers amis à qui je vous prie de dire combien je les aime, combien je me plaise à penser à eux. Adieu, bonne mère, ma prochaine lettre sera d'Italie. Dès à présent, écrivez-moi, si vous voulez, à Rome, poste restante. J'aimerais bien à trouver une lettre de vous à mon arrivée. Adieu, excellente mère, votre fils tout aimant, Ernest Renan. Note, Madame Renan s'était retirée à Saint-Malo, où habitait son fils aîné, Alain, marié et père de famille.